La Bible révèle que la fin de toutes choses est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ.
La semaine précédente, nous avons terminé la série d'études sur les fêtes juives avec le message intitulé « La réalité des tabernacles en Jésus-Christ ». Et à la fin de cette présentation, nous avons vu que la fête des tabernacles était un type de l'avènement de Jésus lors de la fin du monde pour la moisson finale. Et le texte qui nous a permis d'arriver à cette conclusion se trouve en Apocalypse, chapitre 14, versets 14 et 16. Je vous invite à vous rendre avec moi en Apocalypse, chapitre 14, versets 14 et 16, pour reconsidérer le texte qui nous a permis d'arriver à cette conclusion. Et dans ces versets, nous lisons « Et je regardais encore, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée, quelqu'un assis qui ressemblait au Fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et en sa main une faux tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Jette ta faux et moissonne, car le temps de moissonner est venu, parce que la moisson de la terre est mûre. » Et le verset 16 même, « Alors, celui qui était assis sous la nuée jeta sa faux sous la terre, et la terre fut moissonnée. » Juste avant que cet événement ait lieu, les habitants de la terre doivent recevoir, ils doivent entendre un triple message, lequel est décrit du verset 6 à 12. Du même chapitre. Et le dernier de ces messages met en lumière ce qu'est la véritable adoration. En effet, après avoir mis en garde les adorateurs de la bête et de son image du châtiment qui les attend s'ils persévèrent dans cette voie, eh bien, le troisième ange termine son message en donnant en présentant, en exposant les caractéristiques des véritables adorateurs. En effet, en Apocalypse 14, verset 12, verset que nous connaissons certainement par cœur, il nous est dit, quoi ? C'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. D'après le troisième ange, les véritables adorateurs sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Nous avons déjà défini ce qu'est la foi de Jésus, laquelle est une partie du message du troisième ange. Il nous reste maintenant à définir l'autre partie, c'est-à-dire les commandements de Dieu. Ainsi, l'objectif de cette présentation sera donc d'identifier les commandements de Dieu mentionnés en Apocalypse 14, 12, ainsi qu'en Apocalypse 12, 17. Mais également de mettre en évidence leur généralité, c'est-à-dire la généralité des commandements, excusez-moi, de ces commandements en question dont il nous est parlé ici. Mais avant de commencer cette étude, j'aimerais vous faire remarquer une chose, mes amis. D'après Apocalypse 14, le message du troisième ange est le message qui est entendu juste avant la venue de Jésus sur les nuées des cieux. De ce fait, il est le dernier message de miséricorde pour ce monde. Par conséquent, la compréhension que nous aurons de ce que constitue la véritable adoration déterminera si nous serons moissonnés par Jésus, c'est-à-dire si nous serons enlevés avec lui sous les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Souhaitez-vous rencontrer le Seigneur dans la paix lorsqu'il reviendra? Si oui, vous devez alors garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Mais qu'est-ce que les commandements de Dieu? Si la Bible nous dit que Jésus revient chercher les véritables adorateurs, à qui pensez-vous que nous devons aller premièrement pour obtenir la réponse à cette question? À Jésus lui-même. Voilà pourquoi je vous invite à vous rendre avec moi en Matthieu, chapitre 15, versets 1 à 9. L'évangile selon Matthieu, chapitre 15, versets 1 à 9. Matthieu, chapitre 15, versets 1 à 9. Matthieu, chapitre 15, versets 1 à 9. Et là, nous lisons, « Alors des scribes et des pharisiens vinrent de Jérusalem à Jésus et lui dirent, « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent point les mains lorsqu'ils prennent le repas. » Mais il leur dit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu par votre tradition? Car Dieu a donné ce commandement. Honore ton père et ta mère, et que celui qui maudira son père ou sa mère soit puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui aura dit à son père ou à sa mère, « Ce dont je pourrais t'assister est un don consacré à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. » Et ainsi, vous avez anéanti le commandement de Dieu par votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé à votre sujet lorsqu'il a dit, « Ce peuple s'approche de moi de la bouche et m'honore des lèvres, mais leur cœur est bien éloigné de moi. » Mais ils m'honorent en vain en enseignant des doctrines qui sont des commandements d'hommes. Ici, Jésus se réfère aux 10 commandements. Ici, Jésus se réfère au 5e commandement qui se trouve dans le décalogue, donc dans les 10 commandements, qui est « Honore ton père et ta mère », ainsi qu'une autre parole que l'on trouve dans le Pentateuque, donc les 5 premiers livres de Moïse, à savoir la sentence qui sera donnée, qui soit punie de mort, pour indiquer aux scribes et aux pharisiens qui sont venus voir Jésus pour chercher une faute chez lui, Jésus cite cela pour leur indiquer que vous insistez sur le lavage des mains, mais vous transgressez le commandement de Dieu. Et il cite le 5e commandement. Et il dit, Jésus, pas moi, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est Jésus qui dit ça. Jésus, en se référant au 5e commandement, il dit le commandement de Dieu. Et ce commandement-là, mes amis, se trouve où? Il se trouve au sein de ce que l'on pourrait appeler le décalogue ou les 10 commandements. D'accord? Et lorsqu'il va même à dire, à appliquer la prophétie d'Ésaïe, ok, il cite Ésaïe et il dit, qu'on s'approche de moi de la bouche, mon nom de lèvres, mais le cœur est éloigné de moi. Et à la fin, ils disent, ils m'honorent en vain en enseignant des doctrines qui sont des commandements d'hommes. Donc ici, Jésus oppose des cérémonies que les Juifs, auxquelles ils attachaient une grande importance, et au détriment de commandements que Dieu avait donné. Et donc, ainsi, mes amis, nous voyons que si ce commandement-là, Jésus dit que c'est le commandement de Dieu, et que ce commandement-là se trouve au sein d'une série de 10 commandements, alors les 10 commandements sont les commandements de Dieu, mes amis. Continuons avec Jésus, mais cette fois-ci, avec son témoignage, l'esprit de prophétie. Lorsque nous avons étudié la réalité des expiations en Jésus-Christ, nous avons découvert que le message du troisième ange était lié à la septième trompette. Et nous avons également vu que sous cette trompette, l'arche de l'Alliance apparaît d'après ce que nous lisons en Apocalypse. Je vous invite à vous rendre avec moi en Apocalypse, le livre de la révélation de Jésus-Christ. Apocalypse, chapitre 11, verset 19. Et l'apôtre Jean le révélateur, ici, nous rapporte la chose suivante. Et nous sommes sous la septième trompette. Et il déclara que « Et le temple de Dieu s'ouvrit dans le ciel, et l'arche de son alliance parut dans son temple, et il y eut des éclairs, et des voix, et des tonnerres, et un tremblement de terre, et une grosse grêle. » Est-ce l'arche d'une alliance? Non, mes amis. Il ne s'agit pas de l'arche d'une alliance. Il s'agit de l'arche de son alliance. L'arche de l'alliance de Dieu, mes amis. Le temple et l'arche dont Jean nous parle dans ce verset font partie du modèle que l'Éternel montra à Moïse sous la montagne, d'après ce que nous lisons en Exode, chapitre 25, verset 9. Ainsi, l'arche de l'Alliance terrestre a été conçue d'après un modèle céleste. En hébreu, l'épître de Paul aux Hébreux, chapitre 9, et du verset 1 à 5, l'apôtre Paul nous donne davantage d'informations sur l'arche terrestre. Où nous rendons-nous? En Hébreu, chapitre 9, verset 1 à 5. Et lisons, « La première alliance avait donc aussi des ordonnances touchant le service divin et le sanctuaire terrestre. En effet, on construisit le premier tabernacle dans lequel était le chandelier, la table et les pains de proposition. Et il était appelé le lieu saint. Et au-delà du second voile était le tabernacle, appelé le saint des saints, ayant un encensoir d'or et l'arche de l'alliance toute recouverte d'or, où était une aune d'or contenant la manne, la vierge d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'Alliance. Et au-dessus étaient les chérubins de gloire, couvrant le propitiatoire de leurs ombres, ce dont il n'est pas besoin maintenant de parler en détail. » Cette arche, mes amis, est l'arche de l'Alliance de Dieu, car elle contient les tables sur lesquelles l'Alliance de Dieu fut inscrite. Et afin d'identifier cette alliance, rendons-nous en Exode, chapitre 19, et lisons, commençons la lecture à partir du verset 23 jusqu'au verset 25. Où nous rendons-nous? Exode, chapitre 19, à partir du verset 23. Et là, nous lisons, En Exode, chapitre 19, à partir du verset 23, nous lisons que « Et Moïse dit à l'Éternel, le peuple ne peut monter vers le mont Sinaï, car tu nous as fait sommation en disant, fixe des limites autour de la montagne et sanctifie-la. Et l'Éternel lui dit, va, descends, puis tu monteras, toi et Aaron avec toi. Mais que les sacrificateurs et le peuple ne fassent pas irruption pour monter vers l'Éternel, de peur qu'il ne les frappe. Moïse, donc, descendit vers le peuple et il le leur dit. Nous sommes ici sur le mont Sinaï. Et c'est du haut de cette montagne que Dieu prononça les 10 paroles que nous lisons du verset 1 à 17 du chapitre suivant. Au verset 1 à 17 du chapitre suivant, excusez-moi. Et combien de paroles avons-nous en Exode 20 du verset 2 à 17? Nous en avons 10, mes amis. Maintenant, après la promulgation orale de ces 10 paroles, de ces 10 commandements depuis le mont Sinaï, Dieu les inscrivit sur 2 tables de pierre qu'il donna à Moïse afin qu'elles soient préservées dans l'arche. Rendons-nous en Exode, chapitre 31, et considérons le verset 18. Nous allons lire Exode, chapitre 31, et le verset 18. « Et quand Dieu eut achevé de parler avec Moïse sur la montagne du Sinaï, il leur donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. » Ok. Et je vous invite à comparer ce texte avec ce que nous lisons en Deutéronome, chapitre 5, verset 22. Deutéronome, chapitre 5, verset 22. Gardez même d'ailleurs un post-it en Exode et un post-it en Deutéronome, car nous allons souvent comparer ces deux textes, ces deux livres-là. Vous vous placez votre post-it n'importe où, mais en tout cas, nous allons, c'est pour que vous puissiez savoir que nous allons souvent faire la comparaison. En Deutéronome chapitre 5, verset 22, texte que nous comparons avec Exode 31, verset 18, il nous est dit que l'Éternel prononça ses paroles. Ah, et là c'est intéressant, parce que remarquez, juste avant le verset 22, c'est la prononciation des 10 commandements. Ok, donc ici, Moïse rapporte les paroles que Dieu a prononcées, d'accord? Et comptez-les, il y en a 10 paroles, ok? Et après ça, il dit, remarquez ce qu'il dit, l'Éternel prononça ses paroles à toute votre assemblée sous la montagne du milieu du feu, de la nuée et de l'obscurité, d'une voix forte, et il n'y ajouta rien. Puis il les écrivit sur 2 tables de pierre qu'il me donna. Donc, ainsi, les tables de pierre que Moïse a reçues de Dieu, sous ces tables de pierre-là, c'est bien les 10 paroles, ce que nous trouvons en Exode, chapitre 22 à 17, et en Deutéronome, chapitre 5, verset 7 ou verset 6 à 21. C'est cela que Dieu a écrit sur les tables. Mais alors que Moïse était encore sur le mont Sinaï, les enfants d'Israël se livrèrent à l'idolâtrie. Et l'Éternel en informa Moïse qui le supplia de ne pas éliminer le peuple. D'après ce que nous lisons en Exode, chapitre 32, verset 1 à 14. Nous ne prendrons pas ce verset, mais je vous ai fait un résumé de ce que nous lisons du verset 1 à 14. Par contre, rendons-nous en Exode chapitre 32 et commençons la lecture à partir du verset 15, car c'est alors que se produisit l'événement suivant. Exode chapitre 32, à partir du verset 15, et nous lirons jusqu'au verset 19. Où nous rendons-nous? Exode chapitre 32, verset 15. Alors Moïse retourna et descendit de la montagne, les deux tables du témoignage en sa main, les tables écrites des deux côtés. Elles étaient écrites sur l'une et l'autre face. Et les tables étaient l'ouvrage de Dieu. L'écriture aussi était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. Or Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris. Et il dit à Moïse, « Il y a un bruit de bataille dans le camp. » Et Moïse dit, « Ce n'est ni un bruit de cri de victoire, ni un bruit de cri de défaite. J'entends un bruit de chant. » Et lorsqu'il fut près du camp, il vit le veau et les danses. Alors, la colère de Moïse s'enflamma, et il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Et quelque temps après avoir brisé les tables sur lesquelles avait été inscrite l'alliance de Dieu, Moïse se rendit de nouveau sur le Mont Sinaï, d'après ce que nous lisons en Exode chapitre 34, versets 1 à 4. Exode chapitre 34, versets 1 à 4, où nous lisons « Et l'Éternel dit à Moïse, taille-toi deux tables de pierre, comme les premières. » Ok? Cette fois-ci, les tables sont l'ouvrage de qui? De Moïse. Mais l'Écriture, de qui sera-t-elle l'ouvrage? Et j'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Ah, ok. Donc là, l'écriture, c'est bien celle de Dieu, lorsque la loi a été réécrite. Verset 2. Et sois prêt au matin et monte dès le matin sous le mont Sinaï. Tiens-toi là, devant moi, sous le sommet de la montagne. Mais que personne ne monte avec toi, et même que personne ne paraisse sur toute la montagne, que ni brebis ni bœufs ne paissent même près de cette montagne. Moïse donc tailla deux tables de pierre comme les premières, et se leva de bon matin et monta sur le mont Sinaï comme l'Éternel le lui avait commandé, et il prit en sa main deux tables de pierre. Et considérons le verset 28 du même chapitre, le verset 28 d'Exode 34. Là, il nous est dit, « Et Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de la... » De quoi? Les paroles de l'Alliance, virgule, les 10 paroles. Ah, là, c'est clair. Là, on nous avait dit qu'il s'agissait en hébreu des tables de l'Alliance. Et bien là, le Seigneur a écrit les paroles de l'Alliance, mes amis, de l'apôtre Paul Barre, et que Jean, le révélateur, a vu en vision dans l'arche de l'Alliance. Et il précise les 10 paroles. Donc vous pouvez ne pas me croire quand je vous disais qu'il y en avait 10, mais il y en a bien 10. C'est, les paroles de l'Alliance sont bien les 10, mes amis. Ce n'est pas quelque autre parole. Ce sont les 10, mes amis. Ce sont les 10. D'accord? Et maintenant, comparons cela avec ce que nous avons en Deutéronome, chapitre 9, verset 9. Deutéronome, chapitre 9, verset 9. Deutéronome, chapitre 9, et au verset 9. Deutéronome, chapitre 9. Où nous rendons-nous? En Deutéronome, chapitre 9, verset 9. Et là, nous disons que, quand je montais sur la montagne pour prendre les tables de pierre, les tables de l'alliance que l'Éternel a traité avec vous, je demeurai sur la montagne 40 jours et 40 nuits sans manger de pain ni boire d'eau. Ok? Verset 11 maintenant. Donc, avant de passer au verset 11, excusez-moi, j'ai pas résumé. Ici, les tables de pierre sont mises les tables de l'Alliance. Ok. Maintenant, verset 11. Et il arriva qu'au bout de 40 jours et 40 nuits, l'Éternel me donna les deux tables de pierre, les tables de l'Alliance. Ok? Ça fait le troisième texte, mes amis, que nous lisons, qui nous dit bien que ces tables de pierre qu'il reçut, et nous l'avons vu, sous lesquels furent inscrits les paroles de l'Alliance, les 10 paroles sont bien les tables de l'Alliance. D'accord? Maintenant, le verset 15. Je retournai donc et je descendis de la montagne. Or, la montagne était tout en feu, ayant les deux tables de l'Alliance dans mes deux mains. Ok? Donc, mes amis, ce sont bien les biens, les tables de l'Alliance, les tables de pierre qu'ils ont reçues, sous lesquelles furent inscrites les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Et en Deutéronome chapitre 10, et lisons les 5 premiers versets. En ce temps-là, l'Éternel me dit, taille-toi 2 tables de pierre comme les premières et monte vers moi sur la montagne. Tu te feras ainsi une arche de bois. Et j'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées et tu les mettras dans l'arche. Ok? Verset 3. Je fis donc une arche de bois de sittim et je taillai 2 tables de pierre comme les premières et je montai sur la montagne ayant les 2 tables en ma main. Et il écrivit sur ces tables ce qu'il avait écrit la première fois, les 10 paroles que l'Éternel avait prononcées lorsqu'il parlait avec vous sur la montagne, du milieu du feu, au jour de l'assemblée. Puis l'Éternel me les donna. Verset 5 maintenant. Et je retournai et je descendis de la montagne et je mis les tables dans l'arche que j'avais faite et elles y sont demeurées comme l'Éternel me l'avait commandé. Ainsi, mes amis, il ne fait nul doute que les tables de l'Alliance sont les tables sur lesquelles furent écrites les dix paroles qui sont les paroles de l'Alliance. Et lesquelles, ces deux tables-là, ce sont celles que Moïse a mis dans l'arche. Ainsi, mes amis, je me répéterai, mais les tables de l'Alliance sont les tables sous lesquelles furent inscrites les 10 paroles, les 10 commandements. Par conséquent, les 10 commandements, les commandements de Dieu, constituent l'Alliance de Dieu. Et bien qu'ils aient été ensuite, recopié par Moïse dans le livre de la loi, notez que les 10 commandements, en plus d'être les seules paroles à avoir été écrites du propre droit de Dieu, sont les seules paroles qui furent promulguées de manière audible au peuple. Tandis que toutes les autres lois et règlements que Dieu ordonna durant cette période et après, furent uniquement communiqués par l'entremise de Moïse. En effet, en Exode, chapitre 20, et au verset 1, Exode, chapitre 20, et au verset 1, il nous est dit, « Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, » Et là, mes amis, c'est Dieu qui prononça ces paroles en disant. Et, considérons le verset 18 et 19, juste après qu'il eut prononcé ça. Verset 18. Or, tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette et voyait les éclairs et la montagne fumante. Le peuple, donc, voyant cela, tremblait et se tenait loin. Verset 19. Et il dit à Moïse, parle-nous toi-même et nous t'écouterons, mais que Dieu ne parle point avec nous de peur que nous ne mourions. Ils ont entendu la voix de Dieu, mais ils ont dit, on a peur, Moïse, toi parle-nous, mais pas Dieu, toi parle-nous. Ils ont demandé à Moïse d'être médiateur. Et voilà, donc ça, on voit que Dieu va prononcer ces choses. Et remarquez après ce que Moïse va dire. Verset 19 jusqu'au verset 22. Et, donc ça, je l'ai lu, mais du verset Enfin, continuons la lecture au verset 20 jusqu'au verset 22. Et Moïse dit au peuple, « Ne craignez point, car Dieu est venu pour vous éprouver, et afin que sa crainte soit devant vous, en sorte que vous ne péchiez point. » Le peuple donc se tint loin, et Moïse s'approcha de l'obscurité où était Dieu. Et l'Éternel dit à Moïse, « Tu diras ainsi aux enfants d'Israël, vous avez vu que je vous ai parlé des cieux. » Voyez-vous, les 10 commandements sont bel et bien les paroles que Dieu a prononcées des cieux et que le peuple a entendues. Et après ça, remarquez que le peuple a dit, Moïse à présent, toi, nous voulons avoir communication avec Dieu, mais c'est par toi, pas directement avec lui. Regardez, ça c'est le peuple qui a dit ça, les amis. Et cela nous est également présenté en Deutéronome chapitre 4, du verset 10 à 13. Deutéronome chapitre 4, verset 10 à 13, et nous allons ensuite comparer avec le verset 14. La première section se trouve en Deutéronome chapitre 4, verset 10 à 13. Ok ? Où nous rendons-nous ? Deutéronome chapitre 4, verset 10 à 13. Et là, il nous a dit, n'oublie point, à partir du verset 10, n'oublie point le jour où tu te présentas devant l'Éternel ton Dieu en Horeb. Je fais une parenthèse ici. Horeb, mes amis, c'est le mont Sinaï. Ok ? Car, en réalité, pour être plus précis, Horeb, c'est le nom général que porte la chaîne de montagnes, dont le mont Sinaï est le sommet le plus, et l'un des plus hauts sommets, en fait. D'accord ? Donc, lorsque vous voyez Horeb dans la Bible, et notamment en relation avec les commandements, les 10 commandements, c'est le mont Sinaï dont il fait parler, dont il est question. D'accord? Alors, reprenons. N'oublie point le jour où tu te présentas devant l'Éternel, ton Dieu, en Horeb. Lorsque l'Éternel me dit, assemble-moi le peuple, que je leur fasse entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sous la terre, et qu'ils l'enseignent à leurs enfants. Vous vous approchâtes donc, et vous vous tîtes sous la montagne. Or, la montagne était toute en feu, jusqu'au milieu du ciel. Et il y avait des ténèbres, des nuées, et de l'obscurité. Et l'Éternel vous parla du milieu du feu. Vous entendiez une voix qui parlait, mais vous ne voyiez aucune figure. Vous entendiez seulement une voix. Et il vous fit entendre son alliance, qu'il vous commanda d'observer les 10 paroles, et il les écrivit sur 2 tables de pierre. Donc là, ce que nous avons vu en Exode, de manière un peu dispersée, nous le voyons expliquer là, mes amis, en 4 versets, 10, 11, 12, 13, 4 versets, ok? À savoir que Dieu lui-même a prononcé au peuple, avant qu'il soit écrit, Dieu a communiqué son alliance au peuple directement. Ils l'ont entendu. Ok? Et l'alliance qu'il a prononcée, il a ensuite écrite sur les 2 tables de pierre. C'est-à-dire, il a écrit les 10 paroles de l'alliance. Mais regardez ensuite le verset 14. L'Éternel me commanda aussi, en ce temps-là, de vous enseigner ses statuts et ses ordonnances pour que vous les pratiquiez au pays où vous allez passer pour le posséder. Ah! Et là, mes amis, ces statuts et ces ordonnances dont il est question, Dieu ne les a pas communiqués au peuple. Dieu les a donnés à Moïse afin que Moïse le donne au peuple. C'est là, et voilà pourquoi tout à l'heure, nous avons dit que, bien qu'ils aient été recopiés par Moïse dans le livre de la loi, eh bien, que les 10 commandements sont les seules paroles qui furent promulguées de manière audible au peuple. Tandis que toutes les autres lois et règlements, donc, ce que nous lisons ici, au verset 14, les statuts, les ordonnances, eh bien, après la promulgation des 10 commandements, eh bien, furent uniquement communiqués par l'entremise de Moïse. Et voyez-vous, ce statut particulier que possèdent les tables de l'Alliance, sur lesquelles sont inscrites les paroles de l'Alliance, les 10, eh bien, est reflété dans le fait qu'elles furent placées à l'intérieur de l'arche de l'Alliance, comme nous l'avons lu précédemment. Tandis que la loi de Moïse, qui fut écrite dans un livre, laquelle Dieu donna à Moïse afin que celui-ci l'enseigne au peuple, eh bien, fut placée à côté de l'arche, d'après ce que nous lisons en Deutéronome, chapitre 31, verset 26. En réalité, mes amis, les 10 commandements sont les 10 principes fondamentaux de la relation d'alliance. Les autres stipulations du Pentateuque, qui constituent le livre de la loi, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, eh bien, les autres stipulations du Pentateuque sont des clarifications et des applications de ces 10 principes. Mes amis, si le peuple avait obéi au commandement de Dieu, s'il n'avait pas dit à Moïse, oh non, 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 on veut pas que tu nous parles, toi-même parle-nous, parle-nous et nous t'écouterons. Et en fait, en disant cela, ils ont exprimé à Moïse qu'ils avaient besoin qu'ils avaient besoin que Moïse, eh bien, les instruise concernant cette loi, en fait. Et donc, voilà pourquoi le Seigneur a donné, en fait, tout le système cérémoniel et notamment, enfin, pas seulement ça, mais les jugements. Les jugements, c'est-à-dire toutes les explications relatives à la loi. Okay? Tous les détails, de manière à bien expliquer les 10 commandements. D'accord? Mais en fait, toutes ces explications que Moïse a données par rapport à la loi, tous ces jugements, tous ces préceptes, mais en fait, tout cela repose sur les 10 commandements. Ça veut dire que si on les a compris, on n'a pas besoin des préceptes. Par contre, les préceptes sont là pour montrer si on les a compris, et pour aider à comprendre, ou surtout pour aider à comprendre les 10 principes. Et intéressons-nous maintenant à la division des 10 commandements. Voilà ici un petit graphique qui nous permet de voir comment les 10 commandements peuvent être divisés. Car il est évident qu'il y a 10 paroles, mais leur division n'est pas fixe dans le monde, dans le milieu religieux. Car il y a différentes méthodes pour les énumérer. Différentes méthodes pour les énumérer ont été adoptées. La couleur bleue, eh bien, représente la manière dont les Juifs comptent les 10 commandements. La couleur verte est la manière dont les réformés, les anglicans et les orthodoxes, les énumèrent. Et la couleur orange est la manière dont les catholiques et les luthériens les énumèrent. Et, alors j'ai placé cela avec les textes de la Louis II 1910, et il s'agit du décalogue que nous trouvons en Exode 20, versets 2 à 17. Remarquez que, pour les Juifs, le premier commandement est ce que nous, en tant que protestants, en tant que chrétiens protestants, nous considérons comme étant le prologue. D'accord? Mais pour les Juifs, le premier commandement, mes amis, c'est « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Voilà le premier commandement, mes amis, pour les Juifs. Et après, il combine les deux autres en deuxième et la suite vient se caler avec ce que les réformés, les anglicans et les orthodoxes, la manière dont ces trois branches considèrent et énumèrent les 10 commandements. Et pour ces trois branches-là, mes amis, le verset 2 est un prologue. Et le premier commandement commence avec le verset 3. Et je dois vous dire que c'est bel et bien ainsi que nous le comprenons, et c'est bel et bien ainsi que Dieu l'a confirmé par le moyen de l'esprit de prophétie qui a été manifesté dans le don d'Ellen G. White. Par contre, lorsque nous arrivons avec la couleur orange qui représente les catholiques et les luthériens, à ce moment-là, c'est vraiment une désorganisation totale, mes amis. Okay? Alors, ce graphique n'est pas fidèle dans le détail, puisque il faudrait, vu que il regroupe plusieurs corps religieux, mais en réalité, dans l'Église catholique, le deuxième commandement est absent, en fait, dans le catéchisme de l'Église catholique. Ok? Et en réalité, il couple le verset 2, ou du moins, j'allais dire le verset 4. Voilà, c'est le verset 4, en fait, qui dans certains catéchismes, qu'ils enlèvent, qu'ils suppriment. Et après, ils vont aller faire d'autres choses en bas pour avoir ils vont aller diviser d'autres choses pour avoir un décalogue. Mais comme je vous ai dit, ce n'est pas un graphique qui est forcément, vu qu'il combine plusieurs corps religieux, plusieurs dénominations, plusieurs mouvements religieux, eh bien, il ne peut pas être précis dans le détail. Mais pour ce qui est de la manière dont les catholiques divisent les 10 commandements, nous avons une petite brochure que je n'ai pas sous la main, qui s'intitule La loi de Dieu. Et si vous voulez savoir de manière plus précise comment l'Église catholique enseigne à ses fidèles les 10 commandements, les commandements de Dieu, ben je vous invite à nous contacter et nous vous ferons parvenir cette brochure gracieusement. Et voilà ce que nous pouvions rapidement dire par rapport à cette division, à la manière dont ces 10 commandements, ou du moins ces numéros. Et après, il y a aussi la manière dont ils se divisent sur les tables. Okay? Les luthériens et les catholiques romains mettent 3 commandements sur la première table et 7 commandements sur la seconde. Mais les églises réformées, sur la réforme, eh bien, placent les 4 premiers sur la première table et les 6 premiers sur la seconde table. Ce qui est correct. Ce qui est la bonne manière de faire. Mais j'aimerais à présent attirer votre attention sur un aspect de ces commandements. Un aspect de cette loi, qui est l'esprit de la loi. Car contrairement aux apparences, mes amis, cette loi, ces 10 commandements, ces 10 paroles de l'Alliance, cette loi n'est pas superficielle et encore moins négative. Car celui qui l'a donnée à Israël est celui qui les fit sortir de l'esclavage d'Égypte. En effet, lorsqu'il commence avant d'énumérer les 10 paroles, remarquez ce que le Seigneur dit aux enfants d'Israël. Exode 20, verset 2. « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai retiré du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de négatif? Dieu vous fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, pour vous donner une loi qui n'est pas bonne pour vous? Non, mes amis. Non. S'il vous libère de l'esclavage, ce n'est pas pour vous rendre esclave derrière. Ce n'est pas sa volonté de vous rendre esclave. Donc, l'alliance qu'il va vous donner, ce n'est pas quelque chose qui va vous rendre esclave. C'est quelque chose qui va vous rendre libre. Elle est donc une loi de liberté, conformément à ce que nous trouvons dans l'épître de Jacques. Rendons-nous en Jacques, chapitre 2, et au verset 8. Et lisons du verset 8 à 13. L'épître de Jacques. Jacques, chapitre 2. Et lisons à partir du verset 8 jusqu'au verset 13. Si vous accomplissez la loi royale, selon l'écriture, donc là, il va donner un commandement de cette loi royale, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Ah. Vous me direz, cela n'est pas marqué dans les commandements. Patience. Mais si vous faites acception de personne, vous commettez un péché, étant convaincu par la loi d'être des transgresseurs. Car quiconque aura observé toute la loi, s'il vient à pécher dans un seul point, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « tu ne tueras point ». Ça se trouve dans les 10 commandements, mes amis. Oui, c'est ce que nous lisons. Et continuons. Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu tues, tu es transgresseur de la loi. Ainsi, parlez et agissez comme devant être jugé par la loi de la liberté. Ok? Car le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a point usé de miséricorde, mais la miséricorde brave le jugement. Ok? Donc, ainsi, Jacques nous confirme bien, qu'il s'agit d'une loi de liberté. Et une loi de liberté, remarquez que la liberté est contraire à l'esclavage. Et les amis, le péché est ce qui nous maintient dans l'esclavage. Et la Bible va plus loin. La Bible nous dit à quoi sert la loi. Elle nous dit à quoi sert la loi. En effet, lorsque nous lisons en 1 Jean, chapitre 3, verset 4, voici ce qu'est l'objectif de la loi, en tout cas l'un des objectifs de la loi, pour nous, être pécheurs. 1 Jean, chapitre 3, verset 4. Quiconque pêche transgresse aussi la loi, car le péché est une transgression de la loi. Voyez-vous? Les 10 commandements sont ceux qui sont constituent la norme qui détermine ce qu'est le péché, mes amis. Ok? Et nous allons revenir sur ce point-là lors de la conclusion de cette présentation. Mais maintenant, j'aimerais attirer votre attention, ou du moins ramener votre attention sur ce que nous avons vu au verset 8. Lorsqu'il a dit, si vous accomplissez la loi royale selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Ok? Et après, il parle de loi royale. Et après, il dit une loi de liberté et il se réfère aux 10 commandements. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce qu'ici, au verset 8, il cite le Deutéronome à Jacques. Il cite le Pentateuque. Un texte qui ne se trouve pas dans les 10 commandements. Les 4 premiers commandements définissent le devoir de l'homme envers Dieu. Tandis que les 6 derniers définissent son devoir envers ses semblables. Et cela est tellement vrai, mes amis, que Jésus les résuma tel que nous les lisons en Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22, et lisons du verset 37 au verset 40. Où nous rendons-nous? Matthieu chapitre 22, verset 37 à 40. Jésus lui dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Lorsqu'il dit toute la loi, mes amis, c'est toute la loi, les 10 commandements inclus. Car la loi, la Torah, sous les 5 livres de Moïse, dans lesquels Moïse a réécrit les 10 commandements. Vous pouvez le comprendre comme ça. Mais toute la loi peut être aussi comprise comme étant toute la loi des 10 commandements. Mais quelle que soit la manière dont vous le compreniez, mes amis, c'est toute la loi. Donc toute la loi des 10 commandements ou toute la loi de Moïse. Les préceptes et les jugements qui devaient expliquer les 10 commandements. Cela revient au même. Et c'est de façon similaire, mes amis, que l'apôtre Paul résuma la loi en Romains, chapitre 13, verset 8 à 10. Rendons-nous en Romains, chapitre 13, verset 8 à 10. Romains, chapitre 13, verset 8 à 10. Et là, l'apôtre déclara, « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Nous apprenons ici que qu'aimer, ok, et ici le terme qui est employé c'est agapé, en tout cas la racine qui est là, c'est agapé, mes amis. C'est l'amour agapé, dont l'apôtre Paul nous parle en Corinthiens 13, ok, et il nous fait toute une définition. Eh bien là, il nous dit que lorsque nous avons un amour agapé, eh bien, cela est l'accomplissement de la loi. Voilà ce que nous apprenons ici avec l'apôtre Paul. Or, d'après ce que nous lisons en 1 Jean, chapitre 4, versets 8 et 16, nous apprenons que Dieu est amour agapé. C'est ce que Dieu est, mes amis. Dieu est amour agapé. Par conséquent, les commandements de Dieu, les 10, sont l'expression du caractère d'amour de Dieu. Y a-t-il encore quelqu'un qui pense que cette loi est superficielle ou négative? Vous savez, il y a même des gens qui vont à dire que les 10 commandements ont été abolis à la croix. Et il y en a qui vont à dire, qui vont jusqu'à dire que, eh bien, les 10 commandements ont été donnés, ils ont été donnés au peuple d'Israël sur le mont Sinaï. Et ils n'existaient pas avant. Mais les gens qui disent cela sont en train de dire la chose suivante. C'est-à-dire qu'avant le mont Sinaï, Dieu n'avait pas d'amour. Et ils sont également en train de dire qu'après la croix, Dieu n'a plus d'amour. En clair, Dieu est amour uniquement depuis, entre le mont Sinaï et la croix, en fait. Non. Puisque celui qui a écrit que Dieu est amour l'a écrit après la croix, mes amis. Et avant la croix, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique à Jésus, avec quiconque croit, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, mes amis. Dieu est amour. Et l'objectif de la loi, l'accomplissement de la loi, c'est l'amour agapé. L'amour que Dieu est. Autrement dit, nous comprenons que les 10 paroles de l'alliance, l'alliance de Dieu, non pas mon alliance, son alliance, l'alliance de Dieu, mes amis, sont éternelles, sont immuables. Cela est immuable, mes amis. Quelle est donc la conclusion de toute cette affaire? Quelle est donc la conclusion de tout ce discours que nous venons d'avoir? Je vous invite à vous rendre avec moi en Ecclésiaste chapitre 12 et lisons du verset 13 et 14. Ecclésiaste chapitre 12, verset 13 et 14. Alors, pour nous en France, enfin, excusez-moi, ce sera ici, Ecclésiaste, chapitre 12, versets 15 et 16, excusez-moi, puisque la Bible dans laquelle j'étudie n'a pas le même rangement de versets que la Bible dans laquelle je prêche. Ecclésiaste, chapitre 12, versets 13, versets 15 et 16, nous rendons-nous? Ecclésiaste 12, versets 15 et 16. Dans la version Westerwald. Après, dans votre version, ça peut être 13 et 14, ça dépend, mais en tout cas, celle que j'ai là, sous les yeux, c'est 15 et 16, Westerwald 96. Et là, écoutons ce qu'il nous a dit. Écoutons la conclusion de tout ce discours. Crains Dieu et garde ses commandements, car c'est là le devoir, car c'est là le tout de l'homme. Verset 16. Car Dieu fera venir toute œuvre en jugement. Car tout ce qui est caché, avec tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Voilà la conclusion de cette affaire, mes amis. C'est que le tout de l'homme, c'est-à-dire le devoir de l'homme, est de garder les commandements, de garder l'alliance, les dix paroles de l'alliance. Et pourquoi cela ? Les dix commandements, mes amis, sont la norme de la justice divine, d'après laquelle nous serons tous jugés. Et, voyez-vous, si nous serons jugés par une loi de liberté, une loi royale, une loi d'amour, nous devons alors remporter la victoire sur le péché. Et développer un caractère d'amour qui ne sera pas autre chose que l'accomplissement des dix commandements de Dieu, les dix paroles de son alliance. Des foules de personnes sont persuadées que le pape François ainsi que les leaders religieux protestants populaires sont des êtres remplis d'amour. D'amour agapé, je précise. Ils sont persuadés que ces personnes-là sont des êtres remplis d'amour pour les hommes. Mais mes amis, la transgression de la loi manifeste l'absence d'amour agapé. Et de l'autre côté, des croyants n'ont pas l'amour agapé, des croyants qui n'ont pas l'amour agapé, sont convaincus qu'ils observent la loi de Dieu. Mes amis, l'absence d'amour agapé est une transgression de la loi. Et je m'applique d'abord à moi, j'applique d'abord à moi ce que je viens de dire à l'instant, mes amis. Je souhaite développer un caractère d'amour conforme au commandement de Dieu, mes amis, aux 10. Pas vous? Si oui, alors ne manquez pas les prochaines présentations qui magnifieront le caractère d'amour de Dieu inscrit dans les 10 commandements. Que Dieu nous bénisse et nous permette d'œuvrer pour manifester son caractère d'amour, lequel sera conforme aux 10 commandements. Amen.
Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org. Et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lerest.org ou par téléphone au plus 33 6 12 60 13 69.